En cette saison particulière où il y a beaucoup, beaucoup question de mort, en ce jour où nous ne pouvons pas ne pas penser à celui qui vient de nous quitter, à Joël, laissant derrière lui un vide douloureux, il m'a paru opportun de réentendre l'admirable témoignage de Job, notre aîné dans la foi. Job, chapitre 19, verset 25 tout d'abord. « Je sais, confesse-t-il, que celui qui me rachète, mon Rédempteur, est vivant. » Au moment où Job délivre cette admirable confession, Job est à bout, il est à bout. Comme il arrive que nous-mêmes soyons à bout. Lorsque notre vie n'est plus qu'une succession sans fin d'épreuves inexplicables et que Dieu, dont nous implorons avec foi et ferveur le secours, Dieu se cache. C'est pourtant ce moment précis que, relevant la tête, notre ami pousse ce cri « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Un cri. Oui, un cri, et ce cri résonne ici comme un cri de victoire. Alors, que s'est-il donc passé pour que Job, défait comme il l'était encore, il suffit de relire les chapitres précédents, que s'est-il donc passé pour que Job se redresse comme il se redresse ici ? C'est simple. Au cœur de sa détresse, Job a vu une lumière surgir. Une lumière qui l'a hissé d'un coup sur un véritable sommet de la foi. Et l'a aussitôt armé d'une formidable assurance, dont je vous propose maintenant d'en examiner tour à tour l'origine et le contenu. L'origine de son assurance d'abord. « Je sais !» dit Job. Moi, littéralement, moi je sais. Ce qu'il évoque ici n'est donc pas seulement une vague intuition, ni un espoir fragile qu'il pourrait craindre de voir déçu, mais bien une certitude absolue, qui s'explique de deux façons. Par une révélation divine d'abord, et par un contexte favorable ensuite, oui, favorable. Une révélation divine. Job a-t-il, comme Paul, quelques siècles plus tard, connu l'extase ? A-t-il lui aussi été, je cite, « enlevé jusqu'au troisième ciel, dans son corps ou à l'extérieur de son corps » A-t-il été enlevé au paradis ou comme l'apôtre ? Il aurait entendu des paroles inexprimables qui auraient dessillé ses yeux. Ce n'est pas impossible, mais rien ne nous permet de l'affirmer. Ce qui est sûr est que Job n'est plus lui-même. Celui qui jusque-là se répandait en lamentations de toutes sortes est un homme nouveau, un homme méconnaissable. Son ton a changé, son esprit s'est musclé, sa pensée s'est élevée. Mais qu'a-t-il pu bien lui arriver qui expliquerait pareille transformation ? Aucun doute possible, Dieu lui a parlé, d'une façon ou d'une autre, et lui a dévoilé ce qui sera pour lui désormais le plus grand des réconforts, le plus solide des appuis, le plus puissant des stimulants. Celui qui le rachète, son Rédempteur, est vivant, et le jour est proche où de ses yeux il le verra. Mais il y a une seconde raison de cette assurance, et c'est un contexte favorable. Oui, je dis bien favorable. Il lui a fallu un certain temps avant de pouvoir rendre ce lumineux témoignage. Longtemps accablé, autant par la succession d'épreuves qu'il subissait sans les comprendre, que par le discours totalement à côté de la plaque de ses prétendus amis, il aurait été bien incapable d'entrevoir la moindre lueur trouer sa nuit. Mais n'est-ce pas souvent au creuset du malheur, que la pensée s'épure, que la foi s'affine. L'exemple de Job est à cet égard particulièrement probant. Dépouillé de tout, il n'a plus que Dieu sur qui s'appuyer, en qui espérer. Et c'est alors, à ce moment précis, mais alors seulement donc, que lui est soudainement accordée cette glorieuse révélation. Quoi qu'il puisse lui arriver, il sait maintenant que celui qui le rachète est vivant et que ses yeux le verront bientôt. Et c'est bien là l'essentiel. Les nuages sombres qui obscurcissaient sa vue se sont comme disloqués. Un coin de ciel bleu est apparu, d'où lui parvient une lumière nouvelle qui déjà l'illumine et le transfigure. La leçon, me semble-t-il, est précieuse à tous ceux parmi nous qui s'interrogent sur le sens de leur souffrance. Il en est peut-être ce matin. L'exemple de Job indique une piste de réflexion, une piste qui vaut d'être suivie. La plupart d'entre nous sont ainsi faits qu'il nous faut être sévèrement secoués, criblés même parfois, pour songer sérieusement à nous rapprocher de Dieu. Dès lors donc que Dieu nous veut plus près de lui, et nous savons que c'est son désir le plus cher, pour que nous grandissions enfin dans sa connaissance et goûtions pleinement la richesse de sa bonté, il n'a guère le choix. Il doit nous faire passer, nous aussi, par l'épreuve, ce creuset que nous avons coutume d'appeler du malheur et qui est en réalité celui du bonheur. D'où cette injonction de Jacques, l'apôtre Jacques, chapitre 1er, je lis les versets 2 à 4, « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Or, il faut que l'endurance accomplisse son œuvre pour que vous soyez accomplis et parfaits à tous égards et qu'il ne vous manque rien. » Par exemple, c'est moi qui ajoute là, l'assurance que votre Rédempteur est bien vivant. Mais il nous faut avancer et considérer après l'origine, le contenu de l'assurance nouvellement acquise de Job, le contenu de son assurance. Ce que, dans sa situation en apparence désespérée, le Seigneur vient de lui révéler. Trois choses au moins. Un, il a un Rédempteur à lui. Deux, son Rédempteur est vivant. Et trois, son Rédempteur interviendra sûrement en sa faveur. Et pour commencer donc, bouleversante certitude, il a un Rédempteur. Maintenant, s'écrie-t-il, je sais que celui qui me rachète, mon Rédempteur, est vivant. Mais au fait, qu'est-ce qu'un Rédempteur ? À l'époque, le Rédempteur, c'est à la fois le vengeur du sang, chargé de veiller à ce que le meurtrier volontaire ne reste pas impuni, le proche parent qui peut racheter une terre que la pauvreté a pu vous faire aliéner, ou qui, en épousant la veuve d'un mort, lui permet d'avoir une descendance. D'où les diverses traductions proposées selon le contexte dans lequel le titre apparaît, vengeur, défenseur ou sauveur. Ainsi, l'assurance soudaine de Job est-elle d'abord de posséder quelque part une sorte de proche-parent qualifié pour, capable de et prêt à intervenir en sa faveur. Que ce soit en le vengeant ou en lui portant secours, ou les deux, il a lui aussi son rédempteur. Bien à lui. Alors maintenant, la question se pose, qui peut donc bien être ce personnage dont Job sait désormais, sans l'ombre d'un doute, qu'il existe et qu'il peut se fier à lui pour servir ses intérêts et assurer finalement sa fortune. La formule qui a été soufflée à Job pour qu'il ne manque pas de le décrire comme il faut est ici un indice précieux qui, une fois exploité, devrait nous permettre de répondre. « Celui qui me rachète, mon Rédempteur, affirme-t-il, est vivant. » Oui, son Rédempteur est vivant. La description nous renvoie immanquablement et immédiatement à une autre, celle courante à l'époque, de Dieu lui-même, régulièrement introduit comme le vivant, le vivant. Ainsi, nous comprenons que ce Rédempteur attendu par Job est intimement lié à Dieu s'il ne se confond pas purement et simplement avec lui. Du coup, comment ne pas faire, nous, aujourd'hui, ce matin, le lien entre ce Rédempteur justement qualifié de vivant et Christ ? Lui dont les apôtres disent, à qui veut bien les entendre, qu'il est le prince de la vie. La vie même, vivant donc depuis et pour toujours. Pour moi, tout en me gardant de faire de Job un chrétien avant l'heure, je n'hésite pas à le dire, le Rédempteur dont l'existence et l'intervention imminente l'ont soudainement relevé et revigoré, alors même qu'il était au plus bas, n'est autre que Christ en personne. Christ. Il était déjà Christ au commencement de toute chose et il sera encore quand l'univers tel que nous le connaissons passera. Nous pouvons donc, sans en détourner le sens, emprunter ce matin les mots même de Job pour rendre compte de notre foi. Nous aussi savons que celui qui nous rachète, notre Rédempteur, est bien vivant. Depuis quand ? Eh bien, depuis ce jour glorieux où Christ a vaincu la mort, où Christ est revenu à la vie, où Christ est ressuscité. Oui, celui que Dieu a désigné pour intervenir en notre faveur et sceller notre salut, Christ, notre Rédempteur, est vivant. Et nous pouvons être sûrs de ceci, il fera tout ce qui lui revient d'accomplir encore, afin que l'éternité nous suffise à peine pour lui dire notre gratitude, tant celle-ci sera infinie, et pour exalter son nom. Mais le moment est venu de pousser encore notre enquête en nous interrogeant cette fois sur la nature exacte de l'intervention tant espérée de celui qui rachète du Rédempteur. Car Job en est désormais certain, son Rédempteur va intervenir. Son Rédempteur va intervenir. Oui, mais pourquoi faire ? La réponse se trouve dans la suite de notre texte, seconde du partie du verset 25, verset 26 et début du verset 27. Je cite, « Il se lèvera le dernier sur la poussière après que ma peau aura été détruite. De ma chair, je verrai Dieu, moi je le verrai, mes yeux le verront et non pas ceux d'un autre. » Alors, sans prétendre que cette partie du témoignage de Job est limpide, de fait, elle pose de sérieux problèmes d'interprétation, je crois possible, et en l'occurrence parfaitement légitime, d'y repérer une référence à deux bienfaits majeurs attendus maintenant de son Rédempteur. D'abord, une réhabilitation définitive, et puis une faveur inouïe. Une réhabilitation définitive. Je sais, dit Job, qu'il se lèvera le dernier. Au moment le plus inattendu, Job est donc comme secoué par cette formidable certitude. Son Rédempteur, celui qui vit son Rédempteur, se lèvera. Et alors, me demanderez-vous, alors, eh bien, il prendra son parti et le justifiera, lui, une bonne fois, devant les hommes. Notez bien la formule choisie par Job pour décrire l'événement de son Rédempteur. Il se lèvera. Très précisément à la manière d'un avocat de la défense se dressant soudain et s'avançant devant le tribunal pour réfuter les accusations portées contre son client et obtenir sa relaxe. Ainsi, l'espérance de Job est précise. Son Rédempteur, le vivant, ne manquera pas de surgir pour plaider efficacement sa cause et obtenir sa réhabilitation. Alors la question maintenant est celle-ci. Quand cette restauration tant attendue interviendra-t-elle? Alors il est assez commun d'estimer que tout ce que Job espère ici s'est retrouvé bientôt grâce à l'intervention de son divin Rédempteur, son honneur et sa fortune perdues. Ce qu'il fera d'ailleurs. Mais n'est-ce pas négliger un indice important contenu dans son témoignage? De son Rédempteur, en effet, Job nous dit nettement qu'il se lèvera, fin du verset 25, le dernier. Avant de préciser, fin du verset 25 toujours, sur la terre et début du verset 26, après que ma peau aura été détruite. D'où nous concluons qu'au moment où il parle, Job n'attend pas de son Rédempteur qu'il prenne en main sa cause et le réhabilite aux yeux de tous avant ce que nous avons coutume d'appeler le dernier jour. Ainsi, l'assurance qui vient tout juste d'éclairer sa tristesse, et elle l'éclaire et ô combien, et de galvaniser sa foi est en réalité celle-ci. Après qu'il sera mort et que son corps, comme tous les autres, sera redevenu poussière, son Rédempteur, qui lui vivra encore, surgira pour le justifier à jamais. Lumineuse intuition dont notre espérance à nous aujourd'hui n'est que le prolongement finalement. Mais quel prolongement ! Ce que Job finit par entrevoir, mais d'une manière encore confuse, nous ce matin, pouvons le contempler comme en pleine lumière. Si nous sommes de ceux qui ont placé leur confiance en Jésus et en lui seul pour les soustraire à la colère de Dieu et les destiner ainsi à la vie plutôt qu'à la mort, alors nous savons qu'il, Jésus, celui qui nous rachète, notre Rédempteur, se lèvera au dernier jour. Pourquoi faire pour assurer notre défense et obtenir notre propre justification? Car la parole de Dieu sur ce point est sans embâge. Après que la plupart d'entre nous, sinon tous, seront morts, à la fin des temps actuels, adviendra ce qu'elle présente comme le jugement dernier. Alors, nous dit-elle, tous les hommes comparaîtront ensemble devant le Seigneur de l'univers pour rendre compte de toutes leurs œuvres. Par quoi nous entendons de la manière dont ils se seront conduits sous le regard de Dieu jusqu'à leur mort. Autant dire que sans un bon avocat, ce jour-là, ils n'auront absolument aucune chance de s'en sortir. Certains pourtant s'en sortiront, eux, ceux qui, comme Job, pourront compter alors sur l'intervention de leur Rédempteur. Autrement dit, ceux et ceux-là seulement qui, ici-bas, auront eu la sagesse de s'en remettre à Christ seul pour les justifier devant Dieu. Puissions-nous appartenir tous au nombre de ces bienheureux. Le seul moyen pour nous de savoir ceci, en ce jour-là, nous ne serons pas livrés à nous-mêmes face à Dieu. Christ vivant se lèvera en Rédempteur pour prendre notre parti et obtenir de celui qui ne peut rien lui refuser, pour nous, une amnistie aussi totale et définitive qu'imméritée. Comment ? Eh bien, en faisant valoir ce jour-là, non pas nos prétendues belles œuvres, du linge sale pour Dieu, mais plutôt son chef-d'œuvre à lui, je veux dire sa mort expiatoire à la croix, par laquelle, écrit Paul, nous qui étions pécheurs, avons été à jamais parfaitement justifiés. Ce qui suivra alors, pour nous, toujours, d'abord un spectacle inattendu, l'expulsion sans ménagement de notre accusateur, condamné sans appel au plus funeste des sorts, dégage. Et puis surtout, la réalisation d'un rêve. Et nous touchons là au second bienfait qu'attend Job de son Rédempteur, une faveur inouïe. Une faveur qui comblera enfin son désir le plus vif et le plus profond qui a jamais brûlé en lui, voir de ses yeux, voir son Dieu. Début du verset 27. C'est lui que je contemplerai, exulte-t-il. C'est lui que je contemplerai. Et il me sera favorable. Il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Cela fait ce qui lui paraît aujourd'hui une éternité que Dieu lui échappe, pour ainsi dire. Il l'a prié, verset 7 de ce même chapitre, mais sa prière s'est perdue dans le silence accablant qui l'entoure. Si vous voulez savoir, cela fait maintenant belle lurette que il ne connaît plus que les mauvais traitements. On comprend que Job ait une soif folle de retrouver son Dieu. Et voici que, divinement instruit, Job sait maintenant, non seulement qu'il a un Rédempteur vivant, mais encore que ce Rédempteur s'apprête à le réhabiliter. Pour lui donc, plus de doute, ayant été déclaré juste, parfaitement juste, il pourra entrer enfin dans la présence du Seigneur et le contempler face à face. Prodigieuse faveur qui déjà le ravit, l'exalte, le transporte, si je puis dire. Ainsi, l'angoisse a fait place à l'assurance. Ce Dieu qui jusqu'ici paraissait se cacher, il, Job, le verra. Et chose inouïe, il le verra, verset 27, avec ses yeux, preuve que le témoignage de l'Esprit-Saint reçu par Job incluait aussi une allusion au moins à la résurrection des corps. Ce que Job espère désormais, on le voit, est plus qu'une simple vision de Dieu qu'il aurait sans doute déjà enchanté. C'est après qu'il en aura fini avec cette vie-ci, un mode d'existence nouveau, à la fois personnel, c'est moi, Job, affirme-t-il en substance, qui le verrai, moi, Job, et corporel, avec mes yeux, qui, et c'est là l'essentiel, lui permettra de savourer enfin, pleinement, les joies abondantes et les délices éternels que seul procure, sans mesure, la présence devenue tangible du Seigneur. Heureux homme que ce Job. Mais que dire de nous alors, qui voyons en clair aujourd'hui ce qu'il ne fit lui qu'entrevoir ? Heureux, incomparablement heureux, nous le sommes à coup sûr, nous qui, tellement plus nettement encore que notre illustre aîné, savons ceci ce matin, aussitôt après qu'aura résonné dans l'univers tout entier la dernière trompette, annonçant le renouvellement de toutes choses, et en même temps que nous serons éclairés par Dieu lui-même, déclarés par Dieu lui-même parfaitement juste, nous revêtirons un corps nouveau, impérissable lui, et glorieux, avec lequel nous serons invités tous à entrer tous ensemble dans la présence même du Seigneur. Quel ne sera pas alors notre bonheur? Nos yeux le verront enfin, tel qu'il est, dans la personne infiniment belle de celui qui en est à jamais, non seulement l'expression parfaite, mais encore le rayonnement glorieux. J'ai nommé bien sûr Christ, celui qui nous rachète, notre Rédempteur. Croyez qu'ébloui, comme Joël aujourd'hui est ébloui, il nous sera difficile, très difficile, de nous arracher à sa contemplation. Croyez aussi que, comme Joël a commencé de vivre, nous aussi vivrons enfin vraiment. Puisque nous le savons, il n'est de vie authentique et pleine que celle, toujours abondante, que dis-je surabondante, que communique sa communion immédiate et enrichit sa connaissance. Il nous faut conclure, permettez que je le fasse très simplement en formant un double vœu. D'abord, que tous ici nous puissions dire ce matin avec Job, mais plus fort encore, vu les lumières dont nous disposons aujourd'hui, et qu'il n'avait pas. Je sais bien, moi, que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera, le dernier, sur la poussière, après que ma peau aura été détruite. Et je verrai Dieu, moi, je le verrai. Mes yeux le verront, et non pas quelqu'un d'autre. Et à cette fin, que nous nous assurions tous que nous nous sommes bien remis une fois pour toutes à Christ et à lui seul pour notre salut éternel. Et puis, s'il plaisait à Dieu de nous éprouver, nous affliger même dans les jours, les semaines, les mois à venir, que cette formidable assurance nous accompagne, nous porte, nous transporte. Nul doute que notre témoignage, alors, acquerra une dimension nouvelle et que celui que nous cherchons à honorer toujours par notre conduite sera le premier, mais pas le seul, à s'en réjouir. Prions. Te remercions, Seigneur, pour ce témoignage de Job, si fort, si beau, si lumineux, témoignage qu'il nous est possible, à nous ce matin, de reprendre à notre compte, nous qui savons. Qu'un Rédempteur nous a été donné, et quel Rédempteur, Christ ton Fils, mort, lui le juste, pour les injustes que nous étions et hélas sommes toujours. Nous te louons, Seigneur, et te bénissons pour celui qui est venu porter nos fautes et en payer le prix à la croix, un prix effroyable. Nous te remercions pour celui qui a accepté de détourner sur lui la colère qui nous visait, et de subir, lui, le châtiment que nous méritions. Mais pas seulement, nous te remercions pour celui qui, mort à la croix et ressuscité au troisième jour, pour celui qui vit aujourd'hui et qui, ce matin, nous est présenté une nouvelle fois comme notre Rédempteur, celui qui ne nous a pas seulement rachetés, celui qui s'apprête à nous défendre au jour du jugement. Que nous arriverait-il si un tel avocat ne nous était pas accordé, pécheurs comme nous sommes? Quel régal pour l'accusateur de rappeler devant toi toutes nos fautes innombrables, toutes nos erreurs, tous nos errements, toutes nos lâchetés, toutes nos trahisons. Quel régal! Oui, qu'il nous est bon de savoir qu'au jour du jugement, notre Rédempteur se lèvera pour nous couvrir, pour nous défendre, pour plaider notre cause, en rappelant que toutes nos dettes ont été réglées. Lui-même en a payé le prix, tout le prix, et qu'il ne peut donc plus avoir la moindre condamnation pour ceux qui ont fait la paix avec lui. Merci Seigneur pour ce Rédempteur. Merci enfin pour cette espérance, ce jour qui approche et que nous pouvons déjà saluer tant il nous a été décrit dans ta parole. Ce jour où, après que nous aurons été nous-mêmes relevés, nous te verrons dans la personne de notre Rédempteur. Nous te contemplerons. Donne nos yeux, nous te découvrirons et ne nous lasserons plus de t'admirer. Oui Seigneur, merci pour cette glorieuse espérance. Garde-nous fidèlement attachés à toi en attendant sa réalisation. Merci encore Seigneur pour tout ce que nous te devons. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.